VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h, temps universel. Bonjour à tous. La présidente mauricienne Amina Gourib Fakim, contestant les faits qui lui sont reprochés en lien avec un scandale financier, a annoncé aujourd'hui qu'elle refusait de démissionner, contrairement à ce qu'elle avait annoncé la semaine passée le premier ministre Pravind Jugnauth. Madame Gourib Fakim, seule femme chef d'État en Afrique, a également fait savoir qu'elle était prête à intenter une action en justice pour se défendre contre les accusations calomnieuses qui la visent. Le candidat du principal parti de l'opposition en Sierra Leone, Julius Madabio, a légèrement défoncé celui du parti au pouvoir, Samora Camara, lors du premier tour de l'élection présidentielle du 7 mars. Et un second tour aura donc lieu le 27 mars, a annoncé hier la Commission électorale nationale, l'ANEC. En Guinée, le principal syndicat enseignant du pays a annoncé aujourd'hui la fin de la grève qui paralysait les écoles du pays depuis un mois, après avoir obtenu du gouvernement un accord sur ses principales revendications. L'autorité d'Alpha Condé, le président, était de plus en plus contestée par les élèves, leurs parents et des associations de la société civile qui lui reprochaient d'avoir laissé le conflit dans l'enseignement s'enliser, alors que l'opposition manifeste également depuis des semaines pour réclamer une révision des résultats des élections locales du 4 février. D'ailleurs, l'opposition organise aujourd'hui une nouvelle journée de contestation des résultats. Un responsable de la majorité accuse les opposants d'avoir un agenda caché. Raissa Girondin.
De nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui à Conakry. Après une journée ville morte lundi, la seconde en un mois, hier des jeunes ont à nouveau érigé des barricades et brûlé des pneus dans plusieurs quartiers de la capitale. Les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène pour les disperser. Sélou Dalène Diallo, le chef de file du principal parti de l'opposition, rejette les résultats des élections locales du 4 février. Amadou Damaro Camara, le chef du groupe parlementaire du RPG, l'accuse de vouloir créer l'anarchie pour déstabiliser le régime d'Alpha Condé.
Un nouveau massacre a frappé l'Ituri mardi, faisant au moins 30 morts dans cette région du nord-est de la République démocratique du Congo, où le porte-parole des députés prévient que ces violences ne doivent pas servir de prétexte à un nouveau report des élections. Comme les deux précédentes, début et fin février, la nouvelle tuerie a visé des villages du territoire de Djougou, au nord-est, au nord du chef-lieu Bounia, dans cette province entourée par le Soudan du Sud, l'Ouganda, le lac Albert, le nord Kivu, à 2000 km de la capitale Kinshasa. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des affaires humanitaires a bouclé mardi soir sa mission de 48 heures à Kinshasa. Mark Lowcock a notamment interpellé les autorités congolaises sur le drame humanitaire dont il a pu se rendre compte à Kalemi, dans la province de Tanganyika. L'émissaire onusien a recommandé notamment l'amélioration des conditions de travail des humanitaires en RDC. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Vous êtes à l'écoute.
Il y a un drame humanitaire à Kalemi, a déclaré d'entrée Mark Lowcock, le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. Arrivé à Kinshasa dimanche soir, Mark Lowcock a échangé avec les humanitaires œuvrant en RDC lundi avant de se rendre mardi à Kalemi dans la province de Tanganyika. Les problèmes vus à Kalemi sont très significatifs pour la situation humanitaire de la RDC. J'ai rencontré des familles ayant effectué de longues distances de déplacement et qui ont tout perdu, a-t-il précisé. Mark Lowcock a par ailleurs sollicité auprès des autorités congolaises la révision de la procédure de délivrance des visas aux humanitaires afin qu'ils soient rapides et efficaces, a-t-il précisé. Il a appelé également les autorités congolaises à réduire les taxes et droits des douanes et les redevances pour les opérations humanitaires à travers le pays. Mark Lowcock était accompagné lors de cette conférence de presse tenue à l'aéroport international de Njili de Sigrid Kang, la ministre hollandaise du commerce extérieur et de la coopération au développement. Ils ont tous deux reconnu les efforts du gouvernement congolais pour améliorer l'environnement humanitaire de la RDC, dont l'accès à l'éducation, mais appelé à plus d'efforts de la part des autorités de la RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a été élevé au rang de guide suprême éternel du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Personne ne peut se comparer à lui, selon le secrétaire général du parti, qui ajoute que le chef de l'État est le père de tout le monde. Les réactions des habitants de Bujumbura divergent. Certains croient au bienfait des réalisations du président burundais, tandis que d'autres estiment qu'il y a d'autres urgences. De la capitale burundaise, le reportage de Christophe Nkurunziza.
Président du conseil des sages depuis belle lurette, Pierre Nkurunziza est le père de tous les Bagumyabanga, membres quotidiens du parti au pouvoir. Le secrétaire général du parti Evariste Ndayishimiye.
Le comité central du parti CNDD-FDD a déjà décidé que son excellence le président Pierre Nkurunziza est notre guide permanent, c'est notre papa qui nous conseille. Cette décision doit être respectée car une famille sans père de famille n'est pas respectée. Heureusement, dans notre parti, il est notre aîné.
En fait, Pierre Nkurunziza est considéré par les membres de son parti comme une personne de référence, une personne ressource, un visionnaire. Dans les rues et avenues de la capitale Bujumbura, bien de personnes pensent comme cet homme qui corrobore les affirmations du secrétaire général du parti au pouvoir.
Pour moi, l'idée est vraiment bonne. Notre président doit avoir le soutien de la majorité de la population burundaise pour continuer ses projets de développement du pays. Mais dans le cas contraire, le congrès du parti CNDD-FDD doit encore une fois se réunir pour chercher la continuité ou le changement. Vraiment, c'est l'homme de la situation.
Pour cet autre parent de Bujumbura, il y a d'autres urgences qui doivent être résolues par les autorités.
Moi, je trouve que c'est trop pressé. Il faut d'abord qu'on répare les premiers dégâts. Si on ne répare pas les premiers dégâts, on ne peut pas aller au-delà. Il y a le troisième mandat, il y a les problèmes qu'il y en a. Après, il peut être la loi.
Mais d'autres Burundais, comme ces deux femmes que nous avons rencontrées près de l'ancien marché central de Bujumbura, ont d'autres idées.
S'ils ont respecté les procédures et tout le consort des textes légaux et qu'ils ont approuvé, c'est bien peut-être.
On constate ici et là qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a la famille, il y a les gens qui ont fui le pays. Il y a tout ça. C'est pas bon quand même pour le pays qui était appelé jadis le pays du lait et du miel.
Pour le porte-parole du parti Frena, non reconnu par le pouvoir en place, Tatien Sibomana estime que les prochaines échéances vont nous éclaircir, c'est ce qu'a indiqué le comité central du parti CNDD-FDD.
On voit à travers le projet de révision des insinuations au retour à la monarchie. Si demain il se déclare monarque ou empereur, est-ce que les membres du comité central de son parti vont l'accepter comme tel? C'est ça les grandes questions qu'il faut se poser.
Le Burundi se dirige au mois de mai prochain vers un référendum de changement de la constitution qui, s'il est adopté comme tel, permettra au président burundais de briller deux mandats qui le conduiront jusqu'en 2034. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le Parlement allemand a désigné ce mercredi par 364 voix contre 315 Angela Merkel comme chancelière. La dirigeante se voit confier un quatrième mandat consécutif à la tête du gouvernement allemand après avoir réussi à constituer une coalition réunissant son parti, l'Union chrétienne démocrate, CDU, et les sociaux-démocrates du SPD. J'accepte le vote, a déclaré Angela Merkel devant la Bundestag.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Conor Lamb, un démocrate de 33 ans, nous sommes ici aux États-Unis, a revendiqué la victoire dans une élection législative spéciale dans un district conservateur de Pennsylvanie où Donald Trump l'avait emporté avec une avance de quelques 20 points de pourcentage sur Hillary Clinton lors du scrutin présidentiel de 2016. Cette élection a été présentée comme un référendum sur le bilan du président américain plus d'un an après son accession au pouvoir et comme un indicateur des élections à mi-mandat de novembre à l'issue desquelles les démocrates espèrent reprendre le contrôle tout partie du Congrès. Si la victoire de Conor Lamb est confirmée à la Chambre des représentants, les démocrates n'auront plus besoin que de remporter 23 sièges à la fin de l'année pour y redevenir majoritaire. Le président américain Donald Trump a examiné hier à San Diego les 8 prototypes du mur qu'il veut construire tout le long de la frontière avec le Mexique afin de freiner l'immigration clandestine, l'une de ses principales promesses de campagne parmi les plus controversées, particulièrement en Californie. Et puis le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré aujourd'hui qu'il espère voir tomber d'ici ce soir la ville syrienne d'Afrin contre laquelle la Turquie a engagé une opération militaire le 20 janvier pour en déloger une milice kurde. M. Erdogan a fait cette déclaration à la télé. Ankara a déclaré hier avoir encerclé la ville. Fin de ce journal, le prochain dans 50 minutes.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.